Socialement Vôtre, votre chronique du travail social dans l'Ain, proposée par l'ANCEIS. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radio B. Vous écoutez Socialement Vôtre, la chronique du travail social dans l'Ain, proposée par l'ANCEIS, l'École nationale des solidarités, de l'encadrement et de l'intervention sociale. Cette émission du mois d'avril est consacrée à l'autisme, en lien avec la Journée mondiale de l'autisme qui a eu lieu le 2 avril dernier. Alors quand je dis autisme, je devrais dire TSA, trouble du spectre autistique, mais pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Sandrine Sanchez, formatrice à l'ANCEIS de l'Ain, et Maria Sumel, éducatrice spécialisée, que nous avons déjà reçue lors de notre émission de décembre sur le thème du handicap. Merci à toutes les deux d'avoir accepté cette invitation pour nous apporter vos regards de professionnels de terrain.
Merci Clémence, je suis effectivement ravie d'accueillir aujourd'hui Maria Sumel pour échanger autour de l'autisme et plus précisément des TSA, troubles du spectre de l'autisme. Avant d'entamer cet échange, simplement quelques chiffres. Au niveau mondial, 1% des personnes seraient atteintes du trouble du spectre de l'autisme. Et actuellement en France, selon l'INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, 8000 enfants autistes naîtraient tous les ans, soit effectivement environ 1% de la population. Pour autant, l'autisme est méconnu et on verra avec vous Marie, que ce soit du côté de la société au sens large, mais aussi du côté des différents professionnels de soins. En 2010, par exemple, encore un médecin sur quatre l'assimilait à une psychose. Et donc l'autisme souffre d'une représentation très caricaturale, simplifiée, stigmatisée et rendue spectaculaire, que ce soit à travers une vision psychiatrique, les images de crises violentes ou encore des représentations de capacités extraordinaires comme l'hypermnésie. Il y a cependant de nombreuses évolutions qui apportent des éléments pour affiner la définition de l'autisme et donc dans sa compréhension et son accompagnement, notamment en redéfinissant l'autisme comme une différence plutôt qu'une maladie ou un handicap. C'est donc l'objet de notre rencontre, qui est de découvrir avec vous, Marie, plus précisément, quelles sont les caractéristiques de l'autisme, comment celui-ci peut s'exprimer, et dans un deuxième temps, quelles sont les démarches pour un diagnostic et les différents dispositifs d'accompagnement. Mais pour commencer, je vous propose que vous vous présentiez et que vous nous expliquiez votre histoire professionnelle avec ce public.
Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation, je suis ravie d'être avec vous. Donc mon histoire avec l'autisme a commencé juste avant mon entrée en formation de monitrice éducatrice il y a presque 10 ans, non il y a même plus de 10 ans. J'ai lu le livre de Louis Paapa de Francis et de Gersande Perrin et j'ai été vraiment interloquée et surprise par les propos insensés que pouvaient recevoir ses parents de la part de professionnels. Notamment la maman qui a eu comme discours « Votre fils est autiste à cause de votre différence d'âge entre le papa et la maman » ou encore « C'est parce que vous êtes rousse, madame ». On a aussi l'éternel « C'est votre faute, madame, vous êtes trop proche » ou au contraire « Vous êtes frigide à votre enfant, vous ne montrez pas assez d'amour ». Donc suite à cette lecture, je me suis vraiment interrogée. J'avais envie de rencontrer ce public, de mieux le connaître. Et puis il y avait une importante controverse au niveau des accompagnements qui commençaient à arriver, comme la BA, Teach, ce genre de choses. Et j'avais envie vraiment de me faire mon propre point de vue. Donc quand je suis arrivée en formation, j'ai fait en sorte de pouvoir réaliser mon deuxième stage, donc mon stage long, au sein de ce public, et j'ai eu la chance d'effectuer mon stage dans un institut médico-éducatif spécialisé dans l'autisme, donc qui accompagnait des enfants, des adolescents et des jeunes adultes avec TSA et déficience intellectuelle plus ou moins sévère en fonction du profil. Après donc, mon diplôme, j'avais vraiment envie de continuer à travailler avec ce public et j'ai à nouveau eu la chance d'accompagner un enfant avec un TSA et une déficience intellectuelle légère. Et avec la maman et d'autres parents, on a créé une association pour accompagner les familles qui avaient un enfant avec TSA. J'ai pu avoir plusieurs formations par la suite et il y a 5 ans, j'ai été embauchée au centre d'évaluation et de diagnostic de l'autisme de l'Ain et je me suis également installée en libéral il y a à peu près 4 ans.
Merci beaucoup. Est-ce que, de fait, par ce champ d'expertise, vous pouvez nous éclairer, et notamment les personnes qui nous écoutent, sur les caractéristiques qui sont retenues pour qu'un diagnostic du trouble de spectre de l'autiste soit posé?
Bien sûr. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le trouble du spectre de l'autisme est un diagnostic médical. Donc, c'est vraiment un médecin qui peut poser ce diagnostic. Il impacte deux domaines. On va parler de dyade autistique. Le premier domaine correspond à la communication et aux interactions sociales, et le deuxième domaine au caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts et des activités. Donc au niveau de la communication, on va retrouver ce qu'on appelle l'absence, le retard de langage, ou au contraire, ça va être des enfants qui vont parler très tôt, avec un langage très élaboré, dès un an et demi, deux ans. On retrouve également une anomalie dans la voix, ça peut être une voix monocorde, un débit rapide, des particularités. On a aussi souvent une absence de gestes ou peu de gestes. Nous, quand on va discuter, on va rythmer notre discours avec beaucoup de gestes, ce qu'on retrouvera moins chez les personnes avec TSA. On a peu ou pas de contact visuel, ou alors même un contact visuel très fixe qui est peu modulé. On peut avoir également peu d'expression faciale, un visage assez neutre. Et on aura une mauvaise compréhension de l'implicite et du second degré. Ils vont prendre un peu tout au pied de la lettre. Au niveau des interactions sociales, ils vont avoir une mauvaise compréhension et l'identification de leurs propres émotions et celles des autres va être altérée. Et on a également des difficultés à se mettre à la place des autres, à initier et maintenir les interactions et à comprendre les codes que cela implique. Donc tout ceci, au niveau de la communication et des interactions sociales, va impacter ce que l'on appelle la réciprocité sociale et la capacité à échanger, à prendre en compte l'autre. Ensuite, nous avons le comportement moteur, comme des stéréotypies verbaux, comme les écolalies qui vont être plus ou moins acceptables socialement. Les écolalies, ce sont le fait de reprendre les fins de phrases ou de répéter des publicités, des choses comme ça. Et on a aussi une rigidité dans leur fonctionnement, une intolérance au changement, un attachement à des rituels importants qui, dès que les rituels ne peuvent pas être maintenus, vont être très déstabilisants et pouvoir impacter leur comportement ou même leur vie quotidienne. On a aussi des intérêts excessifs ou inhabituels pour certains sujets ou objets et qui vont être plus ou moins acceptables. Par exemple, une fille qui aime les chevaux, c'est acceptable, beaucoup de filles aiment les chevaux, mais ça peut être vraiment restreint à ça et très envahissant à en parler tout le temps et ne pas pouvoir parler d'autre chose. Et on a bien sûr les particularités sensorielles.
D'accord, merci pour ces précisions. Le public non spécialisé, par contre, peut très vite être perdu face aux multiples terminologies employées. Parfois, on parle d'autisme, d'autres fois d'Asperger, de TSA, de troubles neurodéveloppementaux. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire un tri dans cette terminologie ?
Alors, effectivement, avant 2013 et la sortie de la dernière classification du DSM-5, on avait vraiment une multitude de terminologies, comme trouble envahissant du développement, trouble du spectre de l'autisme, Asperger, autisme, enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de termes. Et avec le DSM-5 apparaît une nouvelle classification qui s'appelle les troubles du neurodéveloppement. On va retrouver le trouble du spectre de l'autisme, la déficience intellectuelle, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité et les différents dys, dyspraxie, dysorthographie, dyslexique. Et suite au TND, donc les troubles du neurodéveloppement, on va avoir un consensus pour parler d'un seul terme. Donc on va parler maintenant de troubles du spectre de l'autisme. Et on va après différencier le spectre par son degré de sévérité.
D'accord. Donc il apparaît bien à travers vos explications la représentation du spectre, avec un éventail très large de l'expression du trouble. Et de fait, par quoi l'entourage et même la personne doit être alertée ?
Alors c'est vrai que on a une représentation dans notre société qui n'est pas toujours juste, elle est erronée. En fait, on va avoir les deux opposés du spectre. On va avoir d'un côté l'enfant qui ne parle pas, avec une déficience intellectuelle sévère, qui va être dans sa bulle, avec des mouvements de balancement d'avant en arrière, des troubles importants du comportement. Et de l'autre, on va avoir l'adulte Asperger, avec un niveau de langage très élaboré et un don extraordinaire pour les mathématiques. On a vraiment cette image-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle bien d'un spectre, on parle bien du trouble, du spectre de l'autisme, pour parler de cette diversité, que c'est vraiment très large. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée en stage, et je l'ai souvent entendu par la suite, on dit que quand on a rencontré une personne avec autisme, on a rencontré une personne avec autisme. Et là où j'aimerais vraiment alerté, c'est que l'autisme est vraiment une différence invisible. D'ailleurs, la BD de Julie Dachaise, qui porte le même nom, l'exprime très bien. Elle ne se perçoit pas, mais elle est bien là. Et elle impacte de nombreuses choses au quotidien, comme une fatigabilité importante. Et c'est important de le prendre en compte, même si elle n'est pas visible. Et donc, l'entourage peut être alerté par le manque de contact visuel, des particularités sensorielles, une grande fatigabilité, une difficulté à être en relation, des intérêts très forts ou particuliers, une communication qui n'est pas toujours efficace ou toujours centrée sur lui.
Donc maintenant, si on se place du côté des personnes porteuses de TSA, à quelles difficultés ou encore comorbidités elles seront confrontées et ces difficultés peuvent parfois brouiller les pistes de diagnostic?
Tout à fait. D'ailleurs, chez les personnes TSA d'un bon niveau, elles ont d'abord un autre diagnostic et elles sont souvent diagnostiquées tardivement parce qu'elles arrivent plutôt bien à camoufler leurs difficultés jusqu'à un certain point où là, on arrive un peu mieux à percevoir les caractéristiques du TSA. Donc, ce que l'on peut voir, c'est qu'au niveau de la comorbidité, donc quand on a un diagnostic associé à l'autisme, on a 30 à 40% de déficience intellectuelle. Dans 28% des cas, on peut avoir également une épilepsie associée. Dans 25%, un trouble de l'attention. Après, il peut aussi y avoir des 10 qui se rajoutent. Et on a également des troubles anxieux, de la dépression. Chez les filles, parfois, on va aussi avoir un diagnostic de troubles alimentaires qui va être vu, mais parfois, ce n'est pas le cas dans tous, mais parfois, sous-jacent, il peut y avoir un TSA.
Merci. Et donc, vous êtes, vous, éducatrice libérale, spécialisée. Vous travaillez aussi au CEDA 1, situé à Bourg-en-Bresse. Pouvez-vous indiquer à nos auditeurs vers qui se tourner pour effectuer un diagnostic, quelles en sont les étapes et puis les différents dispositifs d'accompagnement qui peuvent être proposés?
Alors, dans un tout premier temps, si vous sentez qu'il y a quelque chose de particulier chez votre enfant, La première personne à alerter est votre médecin traitant. Ou alors le médecin de la PMI également, si votre enfant a moins de 6 ans, pour faire part de vos observations et de vos inquiétudes. En tout cas, restez pas seul face à vos questionnements, c'est important de pouvoir les partager. Suite à cet échange avec votre médecin, il pourra réaliser un premier bilan avec des questions et une observation de votre enfant. Si effectivement il soupçonne un TSA, il vous orientera pour affiner un peu les bilans, donc soit vers des personnes en libéral, comme une psychomotricienne, une ergothérapeute, une orthophoniste ou une neuropsychologue, ou alors plutôt vers une équipe pluridisciplinaire comme un centre médico-psychologique ou un CAMS. Ou encore, nous, on a la chance dans l'Inde d'avoir aussi la consultation de jeunes enfants à Fléria qui fait les diagnostics des moins de 4 ans. À la suite des différents bilans, le médecin validera le diagnostic si ça va bien dans le sens du TSA. Par contre, si des doutes persistent, s'il n'est pas sûr et qu'on parle donc de diagnostic complexe, les médecins spécialisés comme psychiatres, neuropédiatres ou pédiatres pourront vous orienter vers le CEDA 1, justement. Ensuite, au niveau des accompagnements possibles, tout va dépendre des difficultés de votre enfant. S'il s'agit de difficultés très importantes, il pourrait être orienté en institution, comme un institut médico-éducatif. On peut également avoir, si votre enfant peut être scolarisé, avoir des classes spécialisées, ou alors des services d'accompagnement aussi qui peuvent renforcer les prises en charge, comme un CESAD ou un CAMS. Et il y a également les accompagnements par des libéraux. En tout cas, il faut savoir que chaque accompagnement sera différent en fonction des besoins de votre enfant ou de la personne.
Bien, merci infiniment pour toutes ces précisions qui, j'espère, auront éclairé et sensibilisé nos auditeurs et auditrices sur le trouble du spectre de l'autisme. Rappelons que la Première ministre, à l'issue du comité interministériel du handicap du 6 octobre 2022, a annoncé que le gouvernement entend poursuivre et intensifier la politique menée depuis 2018 en faveur des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme, ainsi que de toutes leurs familles.
Merci Sandrine Sanchez, merci Marie Assumel donc d'avoir apporté ces éléments de précision et si je puis dire, ce décryptage du TSA. Peut-être Marie, avez-vous un événement, des choses à nous dire par rapport à l'activité du CEDA?
En effet, le CEDA organise une conférence le 2 juin 2023 au gymnase du CPA sur justement le devenir adulte chez la personne TSA, puisque la transition entre l'adolescence et l'âge adulte, comme le monde professionnel, est vraiment importante à prendre en compte. Et donc, on organise cette conférence le 2 juin prochain à 13h30.
Bien, c'est noté. Justement, vous allez pouvoir retrouver aussi sous le podcast des liens vers des sites d'information comme celui du Groupement National Centre Ressources Autisme qu'on mettra sous le podcast de Socialement Vôtre. Je vais faire un petit détour avant de clore cette émission. Sandrine Sanchez, vous êtes formatrice à l'ENSEIS de Lain, École du Travail Social, qui a vocation à former les travailleurs sociaux de demain. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement si cette question de l'autisme dans sa grande diversité fait partie d'un enseignement spécifique dans le cadre des formations dispensées dans votre école ?
Alors oui, effectivement, au cours de la formation des travailleurs sociaux, plusieurs modules sont consacrés à la connaissance, la définition, à l'accueil des personnes en situation de handicap et de dépendance, mais au sens large. De fait, au sein de ces modules, il y a bien des temps de formation qui sont consacrés plus spécifiquement à la découverte du public porteur de TSA, aux dispositifs et aux outils d'accompagnement. Mais il s'agit cependant de temps de formation relativement réduit. Et donc l'essentiel des connaissances sur les TSA s'effectue par le biais du désir de rencontre directe avec ce public au travers des stages qui sont effectués pendant les 3 ans de formation.
Très bien, merci. Allez, rapidement, je vais terminer l'émission avec une date à retenir, pour ce mois d'avril. C'est le 3e petit-déj employeur qui aura lieu le vendredi 28 avril de 8h à 9h à l'ENSEIS de Lain, donc qui propose sur son site une revue de presse en format court et autour d'un petit déjeuner pour balayer l'actualité du secteur social et médico-social. C'est un temps privilégié pour échanger entre professionnels. Et ce temps sera co-animé avec les étudiantes assistantes services social de 3e année qui vont ouvrir le débat sur le dossier usager informatisé et ses impacts pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Enfin, en septembre, ouverture en apprentissage de la formation accompagnant éducatif et social, dit AES, et petite enfance, dit AEPE, avec plus d'informations évidemment sur le site internet de l'ENSEIS. La présentation de ces métiers-là sera faite le 9 mai prochain à l'école 48 rue de Peloux à Bourg-en-Bresse. Voilà, on se retrouve en mai pour une nouvelle émission. Et puis, si vous n'avez pas eu le temps de nous écouter, vous retrouverez l'intégralité des chroniques Socialement Vôtre en podcast sur le site de Radio B. Socialement Vôtre, votre chronique du travail social dans l'Ain, proposée par l'ENSEIS.